Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le débrief de la matinale.
À 4h du matin, on avait peur de s'ennuyer, Laure. Hein, oui, cette matinale, on s'est dit, c'est vendredi, c'est calme. On a été servi.
Finalement, non.
On a été servi. Entre l'AG Total qui risque de pas très bien se passer, on a vu les images dès 7h du matin devant la salle Playel à Paris, et Casino. Avec un rebondissement.
Avec un rebondissement, effectivement, dans le dossier des casinos. On va y revenir largement ensemble. Marc Fiorentino, vous suivez le dossier casino?
Oui, bien sûr, toujours, avec beaucoup d'intérêt.
Alors, cette réorganisation de la tristesse.
Oui, parce que Jean-Charles Naouri, pour moi, qui est démarré dans les marchés financiers, donc c'est l'homme de la libéralisation des marchés financiers, c'est un de nos génies français.
Et ça, c'était avant d'être chez Casino, il faut préciser.
Oui, avant d'être chez Casino. Ouais. Et donc, le voir comme ça, plonger, parce qu'il s'est entêté à vouloir être un distributeur alors que c'était un financier brillant, je trouve ça un peu triste.
Le voir plonger et se couper un bras ce matin, parce que vous avez vu qu'il vend 180 magasins à Intermarché, des magasins français.
C'est même plus un bras, là. Il a plus rien, quoi. C'est une plongée dramatique, quoi.
Bon, en tout cas, on voit à quel point l'immobilier, le foncier dans le matière de la grande distribution, ça reste des valeurs, hein, quand Intermarché va racheter des magasins à Casino, Henri Buicazo, ça a de la valeur.
Ça reste une valeur considérable pour ces grandes enseignes, c'est très clair, sachant que la logistique, qui est très proche de cette activité, se porte bien, c'est même le seul segment qui se porte bien. Le commercial et le tertiaire souffrent, le résidentiel, on en parlera, c'est encore un autre sujet.
Oui, parce que sur le logement neuf, on n'a plus de mots. On ne sait plus si c'est la catastrophe, la pire crise. Emmanuel, vous avez
un cri d'alarme.
Ah ben, ça fait plusieurs semaines.
Mais là, on a des chiffres, c'est pire que tout.
On dit que la crise du logement au sens large qui arrive est la pire qu'on va connaître depuis les années 50. On voit les jalons petit à petit, effectivement, les uns après les autres, les signaux s'allument et effectivement, on voit qu'on va vers une situation extrêmement, extrêmement problématique.
Et puis, troisième sujet, bien évidemment, on parlera donc de cette Assemblée Générale de Total Energy qui aura lieu dans quelques minutes, salle Playel. Vous voyez les images de ce matin avec la police qui a exfiltré des militants écologistes et qui a fait usage de gaz lacrymogène. Nous avons Alexandra Paget sur place. Bon, qu'il n'y aura plus de téléphone puisque Total Energy a décidé de prendre les téléphones des actionnaires et des journalistes pendant la durée de l'AG pour éviter les images qu'on a vues chez Shell il y a 3 jours. Go to hell, Shell.
Ouais, et Marc Fiorentino n'est déjà pas d'accord, mais on ne sait pas encore avec quoi. À tout de suite.
C'est certain.
Good morning business, le débrief de la matinale.
Il est 8h37, le débat a déjà commencé. Parce qu'évidemment, quand on a sur le plateau Emmanuel Le Chypre, Marc Fiorentino, Henri Buicazo et Hippolyte Tadevin, et ça discute même pendant la publicité. On parlait du génie de Jean-Charles Naouri, peut-être mis en défaut par l'affaire Casino. On va en parler tout de suite avec vous, Hippolyte Tadevin, parce qu'il y a eu un rebondissement ce matin. On a appris que Casino et Intermarché avaient sécurisé leur deal, là, 180 magasins qui vont passer de Casino à Intermarché, 1 milliard d'euros pour Casino, au moment où ils négociaient avec les créanciers. C'est un peu un gagnant-gagnant, ce deal surprise, là, non?
Oui, effectivement, il y a eu deux annonces ce matin. D'un côté, l'ouverture de la procédure de conciliation qui était attendue, vous le disiez tout à l'heure, en effet. Et d'un autre côté, le groupement Les Mousquetaires et le groupe Casino qui signent un protocole pour le rachat de ces 180 magasins par Intermarché, donc de Casino, pour un chiffre d'affaires évalué à 1 milliard d'euros à peu près. Alors, ce qu'on nous dit ce matin, c'est que pour Intermarché, c'est une façon de sécuriser le rachat de ces 180 magasins avant les discussions qui vont avoir lieu dans les semaines qui viennent avec les créanciers lors de ce protocole de médiation qui a été décidé et qui est validé par le tribunal de commerce sous l'égide de Marc Sénéchal. C'est une façon donc pour Intermarché de sécuriser ces 180 magasins. C'est aussi, d'autre part, effectivement, de l'argent frais qui arrive et c'est une certaine pour Casino avant le début de ces discussions.
On est en ligne avec Rodolphe Bonas, le directeur général d'Aristide Retail Technologies. Rodolphe, comment vous regardez ce qui s'est passé ce matin? Est-ce que ça change les choses pour la suite?
Alors, ça change pas forcément les choses pour la suite. En revanche, ça les confirme. C'est-à-dire que On avait des annonces, j'allais dire, un peu progressives sur la situation du groupe Casino en France. Et là, on voit bien que finalement, la position qu'avait Intermarché, vous savez, avec le groupe Casino, ils étaient déjà dans une alliance à l'achat. Hein. C'est-à-dire que ils s'étaient déjà bien regroupés. Donc, cette alliance à l'achat, elle a donné une position favorable à Intermarché qui lui a permis d'être un petit peu, si vous permettez le mot, un peu le sauveur de dernière minute, mais avec, en effet, une prise, j'allais dire, assez, assez intéressante pour eux. Il faut préciser qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la liste précise de ces magasins parce que ça va être très intéressant de voir quels sont les types de magasins qui sont concernés. C'est-à-dire si ce sont des hypermarchés, des supermarchés ou des magasins de grande proximité. Là encore, ça va être assez intéressant de voir quels sont les axes stratégiques d'Intermarché dans le dispositif de Casino.
Rodolphe, est-ce que cet accord préliminaire, ce milliard qui va rentrer dans les caisses de Casino et de Naori, ça peut lui permettre justement d'être en situation un peu moins inconfortable face à ses créanciers, ou est-ce que de toute façon la messe est dite, il va perdre le contrôle?
Alors, ça va être extrêmement compliqué. Hein. Simplement, un chiffre, la dette du groupe Casino sur le périmètre France est de 4,5 milliards d'euros. Donc là, aujourd'hui, une cession au l'ordre d'un milliard, bah, vous faites vite le calcul, il reste 3,5 milliards. Donc ça veut dire que il va rester les enjeux de conversation qui existent et qui ont été annoncés, c'est-à-dire d'un côté avec l'actionnaire minoritaire David Kretinsky, qui a déclaré son intérêt pour j'allais dire, remonter dans le dispositif Casino. Là, il va falloir savoir quelles sont les enseignes concernées, quels sont les montants qu'on peut mettre sur la table. Et puis, de l'autre côté, vous savez, il y a toujours ce projet avec InVivo, Terrac, Ferme France, où là encore, il y aurait des discussions, des conversations pour venir finalement analyser et comprendre si jamais un groupe aussi complexe que Casino pourrait venir se rapprocher du groupe InVivo, qui sont des coopératives agricoles, comme vous le savez.
Merci Rodolphe Bonas. Pauline, vous vouliez ajouter
quelque chose? Oui, non, juste à noter effectivement que ce qui est annoncé ce matin ne remet pas non plus en cause visiblement les discussions parallèles entre Intermarché et Terract, parce qu'il était prévu qu'Intermarché apporte 100 millions d'euros dans les discussions, effectivement, dans ce projet qui est porté par Terract aussi dans la restructuration de Casino. Ça, c'est compatible, c'est ce que dit le communiqué de Casino ce matin.
Marc Fiorentino, c'est le début de la fin ou pas quand même pour Naori?
Ça a commencé déjà depuis un moment. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre la crise de Casino en une minute, hein, parce qu'on se rend compte qu'en vendant des actifs, comme ce matin, Casino a des actifs de qualité. C'est-à-dire que Casino, c'est quand même une pépite, hein, puisqu'il y a eu des virages stratégiques qui ont été faits. Le problème de Casino, c'est le problème originel de Casino. C'est-à-dire que Casino a été construit par un homme qui n'avait pas les moyens de faire ses acquisitions et qui a monté une cascade de holding avec des endettements qui étaient des endettements majeurs. Le problème de Casino, c'est pas un problème industriel, c'est un problème financier.
Mais c'est aussi un problème industriel parce que les résultats sont pas très bons quand même.
Oui, mais pourquoi les résultats sont pas très bons? C'est très simple, c'est parce que pendant des années, pour rembourser la dette, on était obligé de faire remonter des dividendes, et donc l'argent qui aurait dû être réinvesti dans le groupe n'a pas été réinvesti dans le groupe. Donc ça veut dire aujourd'hui que la valeur du groupe est réelle, elle intéresse beaucoup de gens, ça va être une vraie bataille.
Emmanuel, un mot quand même sur le dossier Casino? Non, vous n'avez pas d'avis. Merci beaucoup.
Ben, on vous ravit des sujets que vous aimez pas. Alors un sujet peut-être que vous aimez, les assemblées générales. Il y a celle de Total ce matin, ça commence assez fort. Il y a eu pas mal d'échauffourées depuis ce matin, 7 heures qu'on suit le dossier, avec des gaz lacrymogènes, des militants écologistes qui sont sur place, qui sont évacués. Et là, on voit qu'il y a Manon Aubry qui vient d'arriver sur place, qui, je pense, ne va pas forcément aider à apaiser la situation devant l'assemblée générale de Total. C'était très verrouillé, cette assemblée générale. Au départ, on craignait ces échauffourées, mais le chiffre, est-ce que finalement, ce qu'on voit sur Total, ça va se passer partout, en fait? C'est le lot des assemblées générales.
Alors, ça, pas pour tous les secteurs et pas pour toutes les entreprises. Mais c'est vrai qu'autour du secteur pétrolier, oui, il y a de multiples débats sur... Là, il faut rappeler que l'origine quand même de la tension, c'est ce désaccord.
Le bilan carbone.
Pour ne pas dire sur conflit, sur la mesure du bilan carbone. Alors, ce qui suscite beaucoup de questions. Par exemple, c'est vrai que le débat sur la façon dont on mesure le bilan carbone des entreprises aujourd'hui, il est intéressant. Et quel est le périmètre finalement des émissions carbone qu'il faut attribuer à Total. Et là, effectivement, on peut avoir un débat intellectuel, mais il faut quand même rappeler que vous avez 9 entreprises sur 10 aujourd'hui qui ne savent pas concrètement mesurer leurs émissions carbone et qui publient quand même. Donc tous ces chiffres sont d'une fiabilité toute relative. Et puis rappelons quand même que personne n'oblige, puisqu'on accuse Total finalement d'émettre, de produire trop, trop de pétrole et de du coup de d'émettre trop de CO2. Rappelons que personne n'est obligé de prendre sa voiture et que Total ne met le pistolet sur la tempe de personne pour vendre son carburant.
C'est exactement la question qu'on va vous poser, parce que vous n'allez pas vous en échapper comme ça. Charlotte Guerre explique effectivement l'enjeu de ce débat. Ah, on n'a pas Charlotte Guerre, ce qui était pourtant prévu.
Elle est là, si vous voulez.
Ah, oui, on y va.
Il arrive.
Qui pollue lorsqu'une voiture brûle du carburant? Total Énergie, qui a vendu le pétrole, ou le conducteur qui l'achète? Le calcul de ces émissions indirectes pour Total Énergie est au cœur d'un bras de fer qui l'oppose à de nombreuses ONG. Depuis cette année, les grosses entreprises ont pour obligation de le publier dans leur bilan carbone. Dans le jargon, on appelle ça le scope 3. Problème, chaque entreprise a sa propre méthodologie de calcul. Résultat, Greenpeace estime, elle, que les émissions de Total Énergie sont en réalité 3 fois supérieures à ce qu'ils disent eux, ce qui a valu à l'ONG d'être assigné en justice par l'énergéticien le mois dernier. Pour aller encore plus loin, près de 10 000 actionnaires au sein du collectif Follow 10 ont même déposé une résolution. Ils demandent à Total Énergie de faire baisser ses émissions indirectes pour s'aligner aux accords de Paris. Fait rare, cette résolution est même poussée par de grands investisseurs institutionnels comme la Banque Postale et Edmond de Rothschild Asset Management.
Mais justement, il faut s'en prendre à qui? À Total Énergie ou aux usagers, aux automobilistes qui utilisent leur voiture et qui émettent du CO2?
Il faut s'en prendre au pouvoir public, il faut s'en prendre aux politiques d'État, il faut s'en prendre à l'hypocrisie générale sur le sujet des énergies fossiles. On en a parlé 100 fois ici. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a besoin des énergies fossiles sur les 25 ans qui viennent et on fait semblant de dire qu'il faut arrêter d'investir. Je voudrais partager avec vous un chiffre qui est tombé hier de l'Agence internationale de l'énergie. Pour la première fois, l'investissement dans l'énergie solaire a dépassé l'investissement dans l'énergie fossile.
C'est bien, non?
Alors, c'est ce que j'allais vous dire, c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que la tendance sur les énergies renouvelables, je vous rappelle qu'il y a 5 ans, c'était 50% énergie renouvelable, 50% énergie fossile, maintenant on est à 65-35, c'est quand même énorme. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on investit, on fait les investissements dans les énergies renouvelables, donc il faut arrêter de nous emmerder avec le fait qu'on ne fasse pas ce qu'il faut pour les énergies renouvelables. C'est une très mauvaise nouvelle, parce que si on n'investit pas dans la production d'énergie fossile, on va avoir un pétrole à $500 dans 5 ans ou dans 10 ans, et ça, c'est une crise majeure.
Il y a des assemblées générales, Pauline Tadevin, où ça se passe bien. Alors Carrefour était un peu... Il n'y a pas eu ces manifestations devant l'Assemblée générale, non. Et il y a eu une résolution qui a été adoptée.
C'est à 10h ce matin, l'Assemblée générale de Carrefour dans l'ordre de Paris. Oui, c'était intéressant ce qui s'est passé cette semaine, parce que Fitrust, ce petit actionnaire, avec d'autres petits actionnaires, ont fait inscrire à l'ordre du jour un point sur le climat, estimant que Carrefour n'était pas assez transparent, notamment sur les émissions de ses franchisés. Et que Carrefour n'était pas assez clair sur sa stratégie climat globalement. Fitrust et petits actionnaires déposent ce point à l'ordre du jour. Et avant même l'Assemblée Générale de ce matin, les deux parties, la direction de Carrefour et les petits actionnaires, ont discuté. Ils se sont entendus. Ce que nous dit Fitrust, qu'on a eu cette semaine, c'est que les réponses apportées par Carrefour sont satisfaisantes. Carrefour a repris à son compte, dans une certaine manière, ces points qui seront discutés ce matin à l'Assemblée Générale. Mais voilà, visiblement, ils ont réussi à trouver un terrain d'entente et à déminer le conflit en amont de cette Assemblée Générale.
La vie des entreprises et des entrepreneurs est déjà tellement compliquée. Il y a tellement de contraintes réglementaires qu'en rajouter une couche, alors qu'on ne sait même pas si ces instruments de mesure sont justes, ça me paraît totalement délirant. On est en train de se plomber nous-mêmes et après on va venir pleurer en disant « Ah ça y est, on rentre en récession ».
Alors ben justement, l'exemple tout trouvé, c'est aussi l'immobilier, Henri Buzot-Cazaux, avec ses nouvelles normes, notamment sur les passoires thermiques, interdites à la location. C'est un problème de plus pour le secteur.
C'est un problème de plus. Alors, le sujet, moi j'ai écouté vos échanges avec grand intérêt, parce qu'il y a quand même une schizophrénie, mais il faut l'assumer. On ne peut pas dire aujourd'hui, il faut relancer la production, par exemple, on va parler des chiffres du logement neuf, qui sont catastrophiques, hein, voilà. On ne peut pas dire pour le parc existant, tout ça va coûter très cher, on parle de 200 milliards, hein, un petit peu moins, à exposer dans les 10 ans qui viennent, et donc on ne fait pas, parce que c'est le plus mauvais moment, c'est l'inflation, et on continue comme ça. il faut, il y a le en même temps, voilà, hein, si vous m'autorisez cet emprunt, on ne peut pas négocier avec le climat, ça reste vrai, c'est une phrase qui est prononcée par un certain nombre de parlementaires, je dis pas par l'exécutif, on a vu l'été dernier, on va le revoir, on le sait, à nos portes le dérèglement climatique, l'immobilier lui-même va en souffrir, d'ailleurs ça affecte les bâtiments, les fissures, c'est à l'origine de morts déjà, bon, donc il faut le faire, alors est-ce que le calendrier, si on parle du logement existant qui va jusqu'en 2034 avec ses interdictions de louer, si on ne s'est pas mis au bon niveau de performance énergétique. Est-ce qu'il est trop serré ? Oui, sans doute. On va voir à l'approche des échéances, il faut redonner une année. Tous les parlements le feront. Mais moi, je ne suis pas partisan de changer de cap. Pour le logement neuf, on voit aujourd'hui effectivement que le dispositif Pinel qui a été assorti de verdissement, mais aussi plus grande superficie de logement, plus grande luminosité, mais verdissement ne fonctionne pas parce qu'il y a un coût, donc c'est pas rentable pour les investisseurs, donc ils n'y vont pas. On a cet effet de ciseau. Je dois dire aujourd'hui que la communauté professionnelle, que ce soit les producteurs de logements neufs ou que ce soit les gestionnaires, les syndics pour le logement existant, ne peuvent pas ne pas être allant sur le sujet. Moi, je vois qu'il y a parfois un peu trop de défaitisme. Mais il est évident que des mesures d'urgence aujourd'hui pour que la machine continue à minima de tourner sont absolument nécessaires parce que les ménages doivent se loger et il ne faudrait pas qu'on meure guéri. Hein, si je puis dire,
parce que là, juste pour qu'on redonne les chiffres, Henri Buzicazo, on est quand même sur des ménages qui ont réservé leur logement pour y habiter, voilà. Qui sont 50% sur le premier trimestre à revenir annuler. Sur leur projet oui, et à annuler. Oui, oui. C'est quand même colossal.
Oui, oui. Bon, alors, la grande question, c'est l'accès au crédit. Hein, on en a parlé, mais il faut continuer à le faire, d'autant qu'il n'y a aucune avancée. Hein. Alors, Bruno Le Maire parlait avec le gouverneur de la Banque de France. Bon, je ne sais pas s'ils ont du mal à se rencontrer, je ne sais pas s'ils ne se croisent pas dans les couloirs, mais en tout cas, ça fait un mois. Est-ce qu'on va assouplir sans conduire les ménages au surendettement ? On ne fait pas ça dans ce pays, de toute façon. Les banques sont responsables. Est-ce qu'on va un peu assouplir pour qu'il n'y ait pas 40% des ménages français qui n'achètent plus, mais peut-être seulement 30 ou 20 ? Ce serait déjà un bénéfice. Voilà, il y a la question de l'accès du crédit, il y a telle ou telle mesure de relance, et puis il faut fondamentalement revoir les choses, c'est vrai, travailler sur le coût des terrains, travailler sur les process pour baisser les coûts de construction et verdir.
On paye les erreurs passées. Hein. Les erreurs passées, on l'a dit ici, hein. C'est le crédit, c'est le prix de le coût de l'usure, c'est la hausse aujourd'hui, les critères de sélection pour permettre à des primo-accédants ou des couples d'accéder au marché. Donc on est aujourd'hui dans un ensemble de choses sur fond de hausse de taux d'intérêt. Je rappelle quand même qu'on vient de vivre une hausse de taux d'intérêt historique, donc il faut le rappeler aussi. Et puis je pense que c'est un peu facile pour les professionnels du secteur de venir pleurer à chaque fois pour demander des aides, alors qu'ils ont fait des erreurs aussi et qu'ils sont précipités en utilisant des financements.
Vous allez être d'accord avec votre voisin.
Bah évidemment, je veux dire, bon, c'est sympa à chaque fois de venir pleurer en disant c'est de la faute de la conjoncture. Pendant 10 ans, on les a pas entendus, ils ont fait un peu tout et n'importe quoi.
Manuel.
Non, je suis pas sûr qu'ils aient tout fait. Ils aient fait tout et n'importe quoi. Après, c'est d'une activité qui est extrêmement cyclique. Et oui, ça, oui, au sens où il faut le prévoir. Mais là,
il faut le prévoir.
Mais là, la conjonction, elle est quand même. Non, la conjonction. Moi, je veux bien entendre que les promoteurs, ils s'en sont mis plein les fouilles, effectivement. Et c'est pas faux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un mur. Et c'est ça, en fait, sur beaucoup de sujets, c'est qu'on n'est pas sur la digestion de chocs ou de changements de tendance. On est sur des véritables murs. Et là, vous êtes, pourquoi aujourd'hui les promoteurs ils sont dans une situation compliquée ? C'est parce que de toute façon ils sont confrontés à des hausses de coûts de construction colossales et à des banques qui ne veulent pas financer leurs projets s'ils ne présentent pas un minimum de rentabilité. Donc il y a plein de petits promoteurs qui risquent aujourd'hui sans doute de faire faillite. Mais cette question du mur, c'est la même sur le climat, c'est la même sur l'énergie, etc.
On appuie à la fois sur l'accélérateur et le frein, parce que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est juste, évidemment personne n'est contre la lutte contre le réchauffement climatique, mais il y a quand même un problème d'organisation.
Non, mais ce qu'il faut bien comprendre,
vision, d'anticipation, de transition. Dans le mot transition écologique, il y a le mot transition. Là, on ne fait pas de transition écologique, on fait un basculement écologique.
Tout le travail qui n'a pas été fait depuis... Alors, Emmanuel Macron le montre du doigt. Il a raison, il ne s'y est pas collé non plus depuis 6 ans, qui n'a pas été fait depuis 30 ans, pour faire baisser le coût du foncier. Les process de construction, pour que on puisse faire en sorte que les logements neufs n'augmentent pas de 6 à 7% par an, ce qui est le cas depuis 15 ans. Ce travail, on ne l'a pas fait. Les promoteurs ne sont pas restés le pied dans le même sabot. Ils ont accepté des normes exigeantes, qui produisent de bonne qualité, et ils ont montré du doigt ce qui n'allait pas, mais c'est vrai que depuis 15 ans, ils arrivaient quand même à vendre. Et on s'est tous laissé aller parce que le marché permettait d'absorber. C'est plus le cas, et on se pose des questions désormais violentes, et il faut se les poser dans l'urgence aussi.
Juste un mot quand même sur le secteur du luxe. On a vu les résultats de Chanel hier qui confirment qu'il y a un ralentissement notable côté américain. Les valeurs du luxe qui ont beaucoup souffert en bourse cette semaine. On sait que vous êtes un grand fan. Marc, ça révise votre jugement ou pas ?
Non, grand fan. Je vous avais dit ici, d'ailleurs, quand vous m'aviez dit s'il y a une bulle à déterminer, je vous ai dit que c'était la bulle du luxe. Je disais simplement que j'étais fasciné par le fait que je pensais que les arbres ne montaient pas au ciel et qu'ils continuaient à monter. On est en ce moment en train de vivre, on est en train de parler de plusieurs sujets, mais on vit tous une chose qui est importante, c'est le retour à la normale. Donc même dans le luxe, le fait de retourner un tout petit peu à la normale serait pas aberrant. Il y a des valorisations qui sont excessives. Il faut souffler un petit peu.
Pauline.
Après, c'était entre guillemets, c'était anticipé par les analystes il y a déjà plusieurs mois. Ça a peut-être mis plus de temps à arriver que voilà. Mais en fin d'année dernière déjà, fin 2022, les analystes commençaient à dire attention sur le luxe là dans les semaines, les mois qui viennent, ça va devenir plus
compliqué. Baisse est marginale par rapport à la flambée qu'on a pu avoir depuis des années et surtout depuis quelques mois.
Après, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes. Le marché américain, le marché chinois qui redémarre quand même moins vite que prévu.
Beaucoup moins vite que prévu. C'est un vrai sujet ça.
C'est un vrai sujet.
Et l'immobilier de luxe pourrait aussi marquer le pas. Ah. Il est aussi sur cette tendance-là. Il pourrait marquer le pas, c'est-à-dire rejoindre une logique qui est celle de l'immobilier tout court, et on vient de l'évoquer.
Merci à tous les quatre pour ce débrief.